Don't tell me.
Le show du matin. Week-end.
Ah, let's go. I'm so let's go, let's go.
Avec Carbo.
Radio X.
Ah, je te dis que c'est un beau show du matin week-end, ça, Jessica.
Yeah!
C'est un beau feu roulant et c'est le fun. Et tu te rappelles, je t'ai parlé de Stéphanie Jolicoeur qui nous vulgarise la physique. Bien, on l'a avec nous. Allô, Stéphanie!
Salut, comment ça va?
Ça va super bien. Merci d'être là ce matin, d'avoir mis ton cadran pis tout.
Ben oui, ben merci de m'accueillir, même si je suis à distance.
Ah, ben écoute, il y a de la technologie pour ça. On est capable de s'arranger très, très bien puis d'avoir un son qui est quand même très appréciable, même meilleur qu'au téléphone. Stéphanie, aujourd'hui, tu vas nous entretenir de radioactivité. Hey, ça me fait peur.
Parce que moi, j'ai fait des vidéos récemment là-dessus, puis je m'inspire toujours d'objets que j'ai dans ma collection. J'ai une collection de bizarreries chez nous, puis moi, j'ai de la vaisselle d'uranium, qu'on appelle aussi l'ouraline. Puis, tu sais, manifestement, je suis pas morte, je suis vivante. Donc,
OK, mais là, explique-moi, moi, quand on me parle d'uranium, avec toutes les capacités que j'ai mentales, c'est sûr que je suis pas physicien, moi, là, puis loin de là, là. Mais uranium me dit, il va me pousser un bras dans le front, là?
Bien, c'est ça, en fait, c'est que les éléments radioactifs, ils peuvent être dangereux dans certaines circonstances, puis on peut s'en servir pour faire des choses encore plus dangereuses comme des bombes atomiques ou des bombes nucléaires, mais l'uranium, dans mon assiette, il est sous forme d'oxyde d'uranium, puis parce qu'il est coincé à l'intérieur de la structure du verre, là, de la vitre, il n'est pas dangereux. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je fasse n'importe quoi avec. Genre, je ne vais pas manger mon sandwich en me servant de mon assiette d'uranium. Je ne vais pas comme tenter le yob. Puis, je vais faire attention de ne pas la casser, tu sais, qu'elle ne s'égrène pas, qu'il n'y ait pas de fissure dedans. Mais de la vaisselle d'uranium, donc l'uranium, il est comme dans un état où il n'est pas dangereux. Mais moi, quand j'ai fait mes recherches là-dessus, ben, nécessairement, je me suis rendue à faire des recherches sur les bombes atomiques de 1945. Puis, tu le sais, Carl, j'aime l'histoire.
Oui. J'adore l'histoire. Puis, tu sais, je t'ai repartagé ton vidéo parce que je t'ai dit, tu m'as fait triper là, avec cette histoire-là.
Ben mais là, je vais vous la partager plus en détail parce que moi aussi, j'étais soufflée quand j'ai appris que la bombe atomique, les deux bombes atomiques qui ont été lancées sur Hiroshima puis Nagasaki en 1945, elles n'étaient pas pareilles. C'était pas des jumelles. Le projet Manhattan, comme si c'était pas assez d'inventer une sorte de bombe atomique, en fait, ils en ont inventé deux.
Mais
qui utilisent des éléments radioactifs différents.
OK, des éléments différents. Mais avant d'aller dans la bombe atomique, là, je peux-tu te poser une question?
Oui.
Pourquoi qu'on a fait de la vaisselle avec de l'uranium?
Ça a commencé dans les années 1800.
OK.
Étonnamment, on connaissait l'uranium depuis ce temps-là, mais on ne connaissait pas la radioactivité.
Okay.
Et de là vient l'idée, en fait, il aimait ça, l'uranium, quand tu la mixes avec du verre, ça lui donne une petite teinte verte, verdâtre, puis c'est juste ça qu'il aimait. Il y a des gens qui ont mélangé de l'uranium puis du verre, qui se sont dit, ça fait joli, on va faire de la vaisselle avec. Puis moi, ça me fait rire, puisque le 19e siècle, les années 1800, il y avait tellement de folie inconsciente. Puis donc, ils se sont mis à mettre de l'uranium dans la vaisselle, mettre de l'uranium dans certains autres produits, des cosmétiques, tout ça, parce qu'on ne connaissait pas encore le phénomène de la radioactivité, donc on ne savait pas encore que c'était pas une idée géniale, tu sais.
Ouais. T'échappes ta vaisselle en bas de ton lave-vaisselle, tu prends un détecteur de radioactivité, ça se peut que tu en détectes?
Ouais, tu sais, comme moi, j'ai toujours mon compteur Geiger avec moi, là, mon détecteur justement de radioactivité, parce que je ne veux pas prendre de chance. Quand ça craque, ce genre de vaisselle-là, ça devient un petit peu moins le fun. Si vous en avez chez vous, parce que c'est relativement facile à trouver en brocante, faites quand même toujours attention. Là, t'sais.
OK. Ouais. Hein? Ça, à un moment donné, il faudrait que tu m'envoies une photo d'une assiette ou quelque chose que les gens puissent le voir, qu'on le mette sur notre page Facebook.
Écoute, oui, parce que en plus, sous la lumière UV, ça devient fluorescent. L'uranium, c'est vraiment le fun à voir.
Hey, ma tante, me semble...
Non, mais hey, vous vérifiez. Non, mais tout le monde qui nous écoute, vous vérifierez parce que c'était tellement courant jusque dans les années 1930, cette vaisselle-là. Ça se peut que vos grands-mères ou vos grands-pères en aient. Moi, ma mère, elle a une vieille tasse à mesurer verte. À un moment donné, elle m'a dit « Coudon, Stéphanie, c'est-tu de l'uranium? » J'ai apporté ma lumière UV, mon compteur Geiger, puis ça n'était. Sa tasse à elle, elle a des cracks. Puis bien que ce ne soit pas comme dangereux au point que j'appelle la commission atomique, là, mon compteur Geiger, il tique vraiment plus quand il est à côté de sa tasse à elle.
OK.
Donc, contactez vos grands-mamans.
Oui, oui, c'est important. Revenons, Stéphanie, à nos fameuses bombes atomiques, parce que ton vidéo m'a fait réagir. Moi, dans ma tête, à moi, une bombe atomique, c'est une bombe atomique. Mais là, je me suis mis à penser dans ma mémoire, la bombe H, la bombe C, la bombe H, tu sais. C'est quoi, là, la différence entre ces deux bombes-là que les Américains ont envoyées sur le Japon?
Donc, la bombe atomique, là, le but, c'est de faire de la fission nucléaire.
Oui.
Puis de faire une réaction en chaîne avec. Donc, on va prendre, ou bien, tu sais, en fait, celle de 45, il y en avait une qui utilisait de l'uranium, une sorte d'uranium particulièrement chatouilleux, là, qui est l'uranium-235. Puis l'autre, elle contenait du plutonium-239. Puis les deux fonctionnent sur le même principe, c'est que tu as un noyau atomique qui est instable. Genre, moi, j'aime ça dire « sont chatouilleux » ou c'est des atomes qui ont envie, genre, d'éternuer. Là, je sais pas quand tu connais là, la sensation quand tu as envie d'éternuer.
Oui, oui.
Ce noyau-là, il a envie d'éternuer, puis de temps en temps, il va éternuer, il va se désintégrer, il va se casser en noyau plus petit, puis il va éjecter beaucoup d'énergie sur le passage, puis il va éjecter des neutrons qui servent de petits boulets de canon. Puis dans une bombe, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une réaction en chaîne. On va mettre de l'uranium ou du plutonium, puis il y a certains noyaux qui vont se désintégrer, puis les particules à haute énergie qui vont éjecter, elles vont servir de boulets de canon qui vont ensuite aller provoquer la fission des autres noyaux à côté. Ça fait une réaction en chaîne. Puis en fait, une réaction en chaîne, quand tu as ça, tu peux faire deux affaires. Tu peux ou bien la contrôler puis faire un réacteur nucléaire ou perdre le contrôle, c'est faire exprès de la laisser aller puis faire une bombe.
Ça va être épouvantable et dommage. Là.
Oui, exactement.
Parce que c'est non seulement l'impact de la bombe avec le sol, par exemple, mais aussi ça va être tout ce qui va rester de radioactivité par la suite. Là.
Oui, c'est ça l'affaire. Puis, tu sais, c'est le même problème avec Tchernobyl, c'est que tout le matériel radioactif n'est pas utilisé là, à l'explosion. Fait qu'il reste de l'uranium ou du plutonium. Puis l'uranium et le plutonium lui-même, quand ils se désintègrent, ben, leur sous-produit, c'est encore des éléments radioactifs. Donc, c'est pour ça que c'est grave, ce genre d'affaire-là, parce que tu as une tonne d'éléments radioactifs différents qui se ramassent dans l'environnement. Puis eux autres, ça leur prend une tonne de temps pour se désintégrer, se redésintégrer jusqu'à temps qu'on ait des éléments qui ne sont plus radioactifs. Ça peut prendre des dizaines de milliers d'années.
Hey, dizaines de milliers d'années. Ça veut dire qu'à Tchernobyl, tu t'amuses pas à aller te promener alentour des réacteurs. Là. Oublie ça, là.
Non.
Puis pourtant, il y a des gens qui y habitent.
Écoute, oui, bien là, c'est ça. Là, faut faire. Tu sais, c'est pas de banaliser le danger là, de ce qu'on appelle la zone d'exclusion de Tchernobyl, où est-ce que techniquement, on n'a plus le droit d'aller réhabiter ou refaire de l'agriculture. Mais dans mes recherches, j'ai découvert une compagnie qui s'est alliée avec des scientifiques là, pour s'assurer que tout était sécuritaire, qui produisent des spiritueux à partir de récoltes faites dans la zone d'exclusion de Tchernobyl.
Ouais, là, c'est pas un peu trop jouer avec le feu, ça, Stéphanie?
Ben, ils avaient l'impression au début, puis ils se sont vraiment alliés avec comme des scientifiques, des ingénieurs nucléaires pour vérifier. Ils ont fait des études sur leurs propres spiritueux qu'ils produisent, qui sont disponibles sur Internet. Ben donc ici, non, là, mais si vous allez, mettons, en Europe, vous pourriez vous les procurer. Puis il n'y a aucune trace de radioactivité. Ils font de l'eau de vie à la pomme. Les grains, l'eau et les pommes sont récoltés dans la zone d'exclusion. Puis en fait, eux autres, ce projet-là, c'est pour montrer que certains coins, je ne dis pas toute la zone, mais certains coins de la zone d'exclusion seraient redevenus assez sécuritaires
pour y habiter,
faire des récoltes.
Ah ouais, c'est tellement triste quand tu regardes la fameuse série sur Tchernobyl qu'on a vue, là. Pas mal tout le monde l'a vu, là. Les parcs récréatifs, les centres d'achat, les maisons, les lots d'habitation, tout est abandonné.
Ouais, c'est terrible.
C'est épouvantable. Mais là, eux vont faire un produit à base de produits naturels dans la zone d'exclusion, puis c'est correct.
Oui.
C'est difficile à comprendre.
C'est correct avec leur méthode, parce que c'est surveillé, parce qu'ils vont dans... Excuse-moi, Karl.
C'est difficile à comprendre. J'ai de la misère à comprendre. Parce que dans le fond, tu m'expliques la radioactivité, mais que ça prend des dizaines de milliers d'années, donc on verra pas ça de notre vivant, mais c'est possible d'y aller quand même. C'est ça qui est, c'est un paradoxe.
C'est, ouais, c'est sérieusement, Carl, la radioactivité, puis tu sais, faut pas, moi je blâme personne d'avoir de la misère à comprendre parce que c'est tellement complexe, parce que à quel point c'est dangereux, ça dépend de plein d'affaires, ça dépend de la radioactivité, elle est dans quoi? Elle est-tu dans l'eau, elle est-tu dans l'air, elle est-tu dans ton corps? Ça dépend de c'est quoi l'élément radioactif, parce que les rayonnements radioactifs, il y en a différentes sortes. Puis, mettons, le plutonium, l'uranium, le strontium, ils n'émettent pas la même chose. Puis, ça dépend aussi de la quantité que tu reçois de rayonnement et dans combien de temps. Alors, tu sais, des fois, on voit des gens qui vont comme explorer, tu sais, dans la zone, qui vont comme tout seuls, tu sais, indépendamment, ouais, aller marcher dans la zone. Tu sais, je réitère là, à la radio que c'est, on n'est pas supposé faire ça. Mais les gens qui vont là puis qui en reviennent vivants, c'est parce que quand tu vas là et que tu ne restes pas longtemps, ben la dose que tu reçois, parce que oui, tu en reçois, elle n'est pas en quantité suffisante puis sur une durée de temps suffisante pour vraiment avoir des grosses conséquences sur ta santé.
OK.
Ça reste que c'est pas recommandé, là.
Non, vraiment pas, là.
C'est mieux d'aller te promener sur la rue Saint-Jean à Québec, c'est plus sécuritaire.
C'est vrai. Donc, il s'appelait comment? Parce que là, on dirait que j'ai l'impression que je mêle des affaires. Les deux bombes sont différentes sur Hiroshima puis sur Nagasaki. Ils s'appellent comment, ces bombes-là?
Donc, Little Boy et Fat Man.
OK. Les autres, ils ont donné un nom.
C'est ça. Eux autres, ça leur tentait ce jour-là. Puis, c'est ça, la bombe qui est tombée sur Hiroshima, elle contenait l'uranium. Mais parce que l'uranium fissile, donc l'uranium assez chatouilleux pour faire une bombe, c'était difficile. C'est encore difficile à ce jour de s'en procurer assez. Donc, pendant la guerre, ils ont découvert le plutonium. Le plutonium a été découvert beaucoup plus tard. Puis, ils se sont dit, OK, Colin, cet élément-là, ça rigole pas, là. Le plutonium, c'est un élément particulièrement chatouilleux. Et ils se sont dit, bon, ben vu que c'est si difficile d'avoir des quantités suffisantes d'uranium pour faire deux bombes, on va en faire une au plutonium.
OK.
Puis parce que les deux éléments n'ont pas le même taux de fission, t'sais, ils n'ont pas le même, ça ne leur prend pas la même quantité pour commencer à émettre de la désintégration puis que ça fasse une réaction en chaîne, les mécanismes pour déclencher la bombe n'étaient pas tout à fait pareils.
OK.
Et moi, je trouve ça incroyable.
Est-ce que la bombe explose en l'air ou elle explose au sol?
Elle explose en l'air.
OK.
Puis d'ailleurs, c'est fascinant parce qu'à Hiroshima, si vous avez la chance d'y aller, là, ceux qui nous écoutent, il y a un édifice qui a tenu.
Debout.
Il est un peu scrap, là, ouais, mais il tient encore debout. Puis c'est incroyable parce que c'était celui qui était directement en dessous de la bombe.
Ah,
et
oui,
c'est pour ça qu'il a tenu. Plus okay,
parce
que
qu'il était
reste
au point précis où la bombe devait tomber, ouais, puis elle a explosé au-dessus d'elle. Donc, le building est resté solide.
Oui.
Ah,
et
ouais,
c'est incroyable de s'approcher de ce bâtiment-là à Hiroshima. C'est vraiment comme une expérience particulière, là.
OK. Alors que l'autre bombe, elle, qui n'est pas tout à fait pareille, mais qui est quand même dévastatrice aussi, parce que c'est évident, là, le Japon, oui, a mis un terme à leurs affaires, là. Ça fait peur. Est-ce qu'aller passer un scanner à l'hôpital, c'est le même logo de radioactivité? Est-ce que c'est la même implication radioactive qu'une bombe?
Écoute, là, je ne veux pas me tromper parce que le biomédical, c'est un peu moins mon dada. Mais oui, le gros beigne là, dans lequel on passe, on reçoit une certaine dose de radioactivité qui n'est absolument pas dangereuse. Sinon, ils ne vous feraient pas faire ça.
Ben non, c'est okay, ça, là.
Mais vous n'allez pas en passer 20 dans une année. Ça, c'est clair.
C'est ça.
Mais c'est ça.
Même affaire chez le dentiste, ils nous mettent une espèce de gros simonac de tablier. L'hygiéniste, elle part à la course en arrière d'un mur, en arrière d'une fenêtre avec un casque en aluminium. Bien, c'est la même affaire. On est dosé, mais à petite, très petite dose.
C'est ça. Mais c'est ça. Puis c'est pour ça aussi que je comprends que ce soit difficile à comprendre parce qu'il y a plein de niveaux différents. Puis des fois, on se permet d'en recevoir dans un contexte médical, des rayonnements, tout ça. Mais c'est vraiment calculé. T'sais, il ne ferait vraiment pas ça si on ressortait de là avec un cancer. Là,
non, c'est
vraiment
ça.
Vraiment pas. Inquiétez-vous pas là, pour vos dents. Allez chez le dentiste.
La bombe à l'hydrogène, elle, c'est quoi la différence?
ça fonctionne à la fusion nucléaire. C'est le contraire de la fission. Donc, tu sais, la fission, c'est des gros noyaux radioactifs comme de l'uranium qu'on casse en morceaux. La fusion, en fait, c'est qu'on utilise des tout petits atomes comme l'hydrogène et on les force à se fusionner pour former des noyaux un petit peu plus gros. Mais les deux, le principe, c'est que ça libère une quantité incroyable d'énergie avec très peu de matière. Puis là, Carl, tu vas reconnaître ce principe-là parce que c'est la formule, l'équation d'Einstein, E égale MC au carré.
Oui, MC2. C'est vraiment ça qu'on apprend à l'école, en tout cas.
Oui, oui, oui. Puis c'est ça qu'on apprend apparemment à 8 h du matin un samedi. Oui,
mais c'est fou, pareil, ce bonhomme-là, ce qu'il avait dans sa tête, hein?
C'est Einstein, c'est rare, parce que moi, je trouve ça... Tu sais, en science, c'est rare que, en réalité, c'est une seule personne qui fait une découverte. Tu sais, souvent, il y a un nom là, qu'on apprend, mais en fait, plus tard, on apprend que c'était comme 10 autres personnes avec lui. Einstein, c'est... Je dis pas qu'il a été tout seul complètement. Il y a des gens qui l'ont aidé à faire les maths. Mais c'est lui qui, conceptuellement, a compris la façon de voir l'univers, puis qui a imaginé la E égale MC au carré puis la relativité générale. Donc, c'est assez incroyable.
C'est fou raide. Puis toi, tu nous vulgarises ça, là, Stéphanie, là, de main de maître. C'est incroyable. C'est super cool.
Mais là, Carl, attends un petit peu. Je veux faire un teaser des prochains sujets, moi, qui m'intéressent, puis que oui. Je vais faire des questions, parce qu'en plus, ça m'oblige, tu sais, ça me... Je suis en train de me renseigner sur les zeppelins.
Zeppelin, c'est le fameux là, dirigeable qui est les ouais. Nazis. Là. Ça, c'est intéressant aussi.
C'était à la Première Guerre mondiale, mais évidemment, c'était les Allemands. Donc, la science derrière le fait de remplir une grosse ballonne d'hydrogène particulièrement inflammable puis d'envoyer ça dans le ciel.
Ouais.
Sinon, dans ma collection, j'ai un préservatif militaire, un condom.
Oh! Ça
de la Deuxième Guerre mondiale. Ça.
La deuxième, en plus. Oui. Il y avait le temps de faire l'amour, eux autres.
Ça fait partie de la guerre, malheureusement. Et je me penche sur la prévention des maladies vénériennes dans l'armée pendant les deux guerres mondiales.
Ah oui, hein? Ça va être le fun à jaser aussi, hein?
Fait que là, voilà, gardez l'œil ouvert.
Oui. Bien, d'abord, on va te suivre sur les réseaux. C'est très, très facile, hein? Tu peux nous les nommer.
Oui, Misanthropie. Tapez Misanthropie, Misanthropie ou Stéphanie Jolicoeur, vous allez me trouver, je pense.
Très facile à trouver. Et, regarde, c'est extraordinaire. Merci encore.
Mais là,
Carl,
la prochaine fois que je viens en studio, je te l'amène, ma vaisselle.
Ouais, mais là, t'es à Montréal, là. Oui, puis j'ai des auditeurs qui m'en ont envoyé des images. J'ai hâte de voir la tienne, puis je vais les comparer.
C'est sûr qu'il y a plein de gens qui en ont. C'est ça, c'est fou.
L'uranium à maison. Aïe, aïe. Merci beaucoup, Stéphanie, encore une fois.
Merci à toi, bye.
Salut, bye. Stéphanie Jolicoeur qui est. À la fois vulgarisatrice de son métier, elle a fait des études universitaires en physique, mais aussi en art dramatique, donc c'est pour ça qu'elle est capable de nous délivrer ça de main de maître. Ça, c'est incroyable, hein?
C'était génial, vraiment.
Ben là, matin, moi, d'apprendre. Moi, une chronique, il faut que j'apprenne de quoi?
Ben, c'est le but, là.
De savoir que ma grand-mère, sa vaisselle verte...
C'était avec de l'uranium. Moi, ça me donne envie d'aller m'acheter une vaisselle en uranium.
Il n'y a pas grand monde dans ton entourage qui a un calculateur pour la radioactivité.
Non, j'ai fait les yeux quand elle a dit « Elle a ça
elle
chez eux ».
Elle a ça chez eux, hein? Imagine. On fait une pause et au retour, Bertrand Godin va jaser de Formule 1 parce que oui, c'est le grand week-end de fête à Montréal. Un petit peu d'avance, mais de fête quand même.
Le show du matin week-end.
Salut tout le monde!
Radio.